jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est maître de conférences en géographie humaine en Suède et militant pour le climat. Son livre « Comment saboter un pipeline », pourtant paru en 2020, a connu un retentissement inattendu en juin dernier, alors que le ministère de l'Intérieur a décidé de dissoudre le collectif Les Soulèvements de la Terre et a visé explicitement dans son décret ce titre. En cause, l'action directe et les actions extrêmes, les sabotages et les dégradations matérielles qui y étaient prônées. Car notre invité, c'est vrai, n'en peut plus du pacifisme des mouvements écologistes, des déguisements de fleurs et des pièces de théâtre conscientes. Il veut aller plus loin et rompre non seulement avec la non-violence, mais aussi avec l'esprit actuel de l'écologie qui peut faire de la nature et de la culture un grand tout hybride. Aller plus loin donc, mais pour aller où et pour obtenir quoi ?
Andreas Malm, bonjour, bienvenue dans les Midis de Culture.
Bonjour, that's about all I can say.
C'est tout ce que je peux dire en français.
Et je salue également Michel Zetowski, qu'on vient d'entendre. Vous allez être l'interprète de notre invité durant cette rencontre.
Alors on est ravis de vous recevoir, Andreas Malm, mais j'ai une question, un petit peu de curiosité. Pourquoi êtes-vous ici en France ?
I'm here on the invitation of Dauphine University for...
Je suis invité par l'université de Paris-Dauphine.
A short period of being a guest professor.
Être professeur invité.
Donc vous allez donner des cours à l'université Dauphine, c'est ça?
Yes, I give lectures and seminars there. Yes.
Okay. Oui, je fais des conférences, je donne des conférences.
Et alors vous allez faire vos conférences sur quoi?
So we had one together with.
Bien, nous en avons déjà tenu une.
Hella Youssoufi, Malcolm Fardenon, Pierre Guilbert.
Youssoufi, Pierre Guilbert, Matignon.
The climate crisis.
Sur la crise climatique.
Divide between the global north and the south.
Et la division entre le nord et le sud et les divisions impériales.
Alors, vous êtes déjà professeur en Suède. Qu'est-ce que ça a fait d'enseigner en France? Est-ce que vous avez adapté votre enseignement en vous disant il y a un état d'esprit par rapport à l'écologie qui est différent, donc je dois m'adresser différemment à ce public-là?
Well, yeah, everything is more interesting here and more
tout est plus intéressant ici et plus dynamique.
C'est pas bien la Suède.
Avec plus de vibrations.
Sweden is a. How should I put it?
La Suède, c'est bon.
It's a lake with no oxygen in it.
C'est un lac sans oxygène. C'est une zone morte.
Donc, comment vous vous adressez à ces étudiants en France? Comment vous leur parlez, sachant qu'il y a beaucoup d'engagement écologique, mais il peut y avoir aussi certains freinages politiques à ce mouvement-là? Comment vous vous adressez à eux?
Well, I wish I could talk to them directly in French.
J'aurais souhaité pouvoir leur parler en français directement.
But
d'abord.
I can't. I studied French
pas.
For 6 years
j'ai
in school,
j'ai étudié le français pendant 5 ou 6 ans à l'école, mais moi j'étais un cancre à l'école dans ce domaine-là.
But you know, I try to speak to people here in the way I speak to people anywhere.
It's just de parler aux gens ici comme partout ailleurs. Mais il y a plus de choses qui se produisent dans ce pays ici.
And that I think France still has an intellectual culture.
Je pense que la France a une culture intellectuelle qui est différente de tous les autres pays en Europe. Il y a beaucoup plus d'intérêt pour des idées ici.
Et sur les
even people like Darmanin obviously reads books
comme Darmanin or, par exemple il lit des livres.
At least he pretends that he reads.
Au moins il prétend lire des livres.
So, books and ideas
mais
have
les livres et les idées ont un standard un standing différent des autres pays d'Europe.
People take ideas seriously here.
Les gens prennent les idées au sérieux ici.
And are you
je pense
also,
que c'est différent.
If I were to compare Sweden and
et
France,
si je devais comparer la Suède et la France, vous avez encore des librairies.
You have a lot of independent.
Il n'y en a pas en Suède des librairies?
Yeah, we have like one big chain.
Non, il y en a.
Like
il y a une grande chaîne, genre un McDo pour livres, quoi.
That's about it. Because
et
we
c'est
don't
tout.
Have any state subsidies
parce qu'il n'y a pas de subvention pour les librairies indépendantes.
Alors, vous avez cité Gérald Darmanin. Effectivement, vous avez été cité, Andreas Malm, l'année dernière, dans ce décret qui préconisait la dissolution des soulèvements de la Terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce décret, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez vu, traduit en tout cas, votre livre n'est pas cité directement, en fait. Vous apparaissez en note de bas de page, mais votre nom n'apparaît même pas dedans. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous dire que vous étiez visé comme ça par le ministère de l'Intérieur? Qu'en avez-vous pensé par rapport au positionnement de la France que vous trouvez très à l'aise sur les idées, mais peut-être pas tant que ça sur les idées écologiques.
I think my initial reaction was almost.
Ma réaction était tout d'abord de rigoler.
I found it a little bit amusing.
J'ai trouvé ça un peu amusant.
I trying to understand the logic of this while talking to comrades here, and from them I understood.
Comprendre la logique en parlant aux camarades ici, et j'ai compris qu'il s'agissait d'identifier une doctrine en quelque sorte qui était une un fondement pour ce groupe, et mon livre arrivait à point, et il a été utilisé dans ce but, pour mettre le doigt sur le genre de philosophie qui unissait ce mouvement. Mais l'illusion, c'était que le soulèvement de la Terre était jailli, avait jailli de mon livre. Peut-être que certaines personnes ici dans le mouvement ont lu mon livre, mais un mouvement n'apparaît pas hors d'un livre de cette manière-là. Peut-être que c'est une surestimation de l'importance des idées et des livres.
Est-ce que vous ne trouvez pas, Andreas Malm, que vous incarnez très clairement cette position de rupture avec le pacifisme des mouvements écologiques et qu'il était tout à fait normal que vous soyez visé et que d'une certaine manière, c'est aussi ce que vous cherchiez avec une telle théorie anti-pacifiste ?
Yes, but the so this book has been published in a lot of countries.
Ce livre a été publié dans beaucoup de pays.
And nothing similar to this has happened.
Rien de semblable ne s'est produit.
This is not because of the book itself.
Ce n'est pas en raison du livre lui-même, son contenu. Et il n'y a eu aucun décret contre ce livre avant ces événements particuliers. Donc, ce qui a causé ce décret, ce n'était pas le livre lui-même, mais les activités des soulèvements de la Terre, l'action contre la Farge, les actions contre les mégabassines, et à Sainte-Soline plus particulièrement, de façon très dramatique. Et c'est la raison pour laquelle ce décret a paru, et mon livre a été, si vous voulez, mis dans le panier en tant que justification pour avoir nommé ce mouvement en tant qu'entité terroriste qui devait être détruite. Et, mais le décret n'est pas arrivé à son terme, il n'a pas réussi.
Alors on parle là de comment saboter un pipeline qui est sorti en 2020, mais plus récemment est sorti un livre aux éditions de La Fabrique qui s'appelle « Avis de tempête, nature et culture dans un monde qui se réchauffe ». Un texte, je précise tout de suite, que vous avez écrit en 2016, qui est paru seulement il y a quelques mois en France, et dans lequel vous critiquez la figure de Bruno Latour. Donc je vous propose tout de suite d'entendre la voix de Bruno Latour.
L'écologie politique, c'est penser en rapport avec la nature. Donc elle a cru qu'elle inventait un nouveau souci, une nouvelle préoccupation, une nouvelle précaution, qui était le souci de la nature dans la politique. Or, mon argument est exactement l'inverse. On n'a jamais arrêté de construire la politique à partir de la nature. On l'a repeinte, les verts la repeignent en vert, mais la nature grise, la nature précisément qui permettait l'accord des esprits malgré les perturbations et les passions de la politique, a toujours été au cœur de la politique. Donc la tâche de l'écologie politique telle que je la redéfinis, c'est de libérer la politique de la nature, justement. C'est-à-dire d'arrêter de dire, si seulement nous avions une connaissance des lois de la nature, nous nous accorderions beaucoup plus facilement. Et les Verts, contrairement à ce qu'ils croient, ne font qu'hériter de cette conception de la nature. C'est-à-dire de l'idée qu'au fond, eux contrôlent les lois de la nature. Ils en ont une connaissance plus ou moins savante, mais au fond, même quand ils ne sont pas savants, ils imaginent qu'ils savent ce que veut la nature. Et au nom de cette nature, ils vont dicter de nouveau à la politique ces lois.
C'était la voix du sociologue, anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour, qui est disparu le 9 octobre 2022. On l'entendait ici, c'était en 2002, dans l'émission À Voix Nue sur France Culture. On a bien entendu dans cette archive la manière dont il dit que le Parti écologique des Verts promeut un rapport avec la nature, parle de loi de la nature, et comment lui, l'écologie politique de Bruno Latour, doit en finir avec la nature, une manière de dire qu'il n'y a pas la nature d'un côté et la culture de l'autre, mais vraiment un tout hybridé. Or vous, Andreas Malm, c'est ce que vous réfutez dans ce livre « Avis de tempête ». Alors je l'ai dit, c'était écrit en 2016. Est-ce que vous réfutez toujours cette hybridation de la nature et de la culture ? Est-ce que vous avez un petit peu changé ?
No, I definitely stick to this position.
Je m'en tiens à cette position. Je pense que l'argument qu'il a présenté dans le petit extrait que vous avez mis à l'antenne, mais je dois dire que je dois confesser que je n'ai pas lu son dernier ouvrage, parce que moi je mettais l'accent sur autre chose depuis que j'ai écrit ce livre. Mais ma compréhension, c'est qu'il s'est un peu radicalisé vers la fin, plus à gauche, et je pense aussi qu'il est resté fidèle à son projet politique, qui était précisément cette dissolution hybride d'une distinction entre la nature et le social. Et je pense que c'est vraiment un échec conceptuel, ça ne nous aide pas à interroger, à comprendre quelque chose comme la crise climatique. Eh bien, comme vous regardez comment l'effondrement climatique se produit, ce que fait la science, c'est la science nous informe que diverses parties du système climatique sont sur le point de s'effondrer et de s'arrêter. Donc, par exemple, le consensus littéraire, c'est que le point de bascule, c'est que le point de rupture, c'est 1,6 degré de réchauffement. Ce qui signifie que si le réchauffement va au-dessus de 1,6, par exemple, la couverture de glace du Groenland va fondre de façon irrémédiable. Et cette dynamique particulière appartient au monde de la nature. Au sens où la couverture glaciaire réagit à la chaleur d'une manière qui est déterminée par des facteurs biophysiques. Le fait que la glace fond quand on monte au-dessus de 0 degré centigrade, c'est un fait que les humains n'ont pas créé, c'est un fait de la nature. Et donc c'est lorsque ces faits de la nature entrent en collision avec des processus sociaux, à ce moment-là, il y a un effondrement climatique. Et c'est ce qui se produit actuellement. Donc il y a la nature, analytiquement, d'un côté, et la société de l'autre côté. Bien sûr, ils sont mélangés dans le monde matériel, mais le point de la politique climatique est de dire que si on va au-delà d'une certaine limite de température, nous allons déclencher des processus de la nature qui vont produire des catastrophes. Donc il faut prendre contrôle des processus sociaux et faire cesser les compagnies d'énergie fossile qui ne font que faire une chose, c'est d'extraire les énergies fossiles. C'est ça le seul point. Mais la distinction est centrale entre les processus que les humains ne peuvent contrôler et les processus sur lesquels nous avons un contrôle. Donc le point, c'est que les êtres humains ne peuvent pas contrôler la fonte des glaces, mais contrôler les compagnies qui sortent l'énergie fossile, ça, oui, nous le pouvons.
Alors, ce que vous critiquez, en fait, si je comprends bien, Andreas Malm, chez Bruno Latour, c'est le fait qu'avec ce qu'il a appelé le constructionnisme, on puisse à la fois construire non seulement des lois qui nous permettent d'appréhender la nature, mais c'est l'homme qui les a construits, et donc d'établir d'une certaine manière une toute-puissance de l'homme à construire des lois, à n'avoir accès à la nature qu'à travers des lois. C'est ça que vous lui reprochez, une forme de toute-puissance, alors que vous voulez redonner une forme de puissance à la nature comme une entité autonome.
Well, it's not a matter of giving power to nature.
C'est pas le point de donner du pouvoir à la nature, mais c'est un fait pour que la société se rende compte que si on maintient notre course actuelle, eh bien, nous allons déclencher des catastrophes en raison de la façon dont la nature réagit aux émissions anthropogéniques.
Pardon, Michel Zotowski, je vais trop vite. Mais en quoi, abolir un dualisme entre la nature et la culture empêche de penser ça? Si on est dans une forme d'hybridité entre la nature et la culture, ça nous permet de dire qu'en agissant, on agit aussi sur la nature qui elle-même agit sur nous. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, quel est le problème de tenir autant à cette distinction, à critiquer Latour là-dessus? Qu'est-ce que ça permet, vous-même, en termes, pas seulement intellectuels, mais de militantisme?
En un sens, c'est simplement d'un point de vue intellectuel, parce que ce débat est universitaire, c'est moral, c'est philosophique, c'est vraiment quelque chose pour les gens qui lisent des livres, c'est une sorte de rébus pour les gens qui lisent des livres. C'est pas comment saboter un pipeline, c'est pas une tactique pour un mouvement écologique, c'est à une pertinence en dehors de l'université. Ce livre en question, où je parle de Bruno Latour, c'est vraiment un ouvrage ésotérique, universitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une question d'analyse. Est-ce que c'est analytiquement utile et ça nous illumine de savoir que la nature et la société sont une seule et même chose, que c'est un hybride, ou alors est-ce que ça cache des choses? Moi, je pense que ça obscurcit les choses. Je pense qu'il faut absolument comprendre la composition de la crise écologique et faire la distinction entre les éléments naturels et les éléments sociaux de la crise. C'est la base de toute la politique de cette crise. Comment est-ce que les humains prennent contrôle de processus au sein d'une société pour qu'ils ne détruisent pas la planète sur laquelle nous vivons.
Donc vous, Andreas Malm, vous dites que vous défendez un réalisme climatique, mais si je vous comprends bien, finalement, ce livre-là, À vie de tempête, c'est plus un livre qui est destiné en fait à des universitaires qui vont discuter entre eux du climat, mais ça ne s'adresse pas en fait à des militants du climat. Alors pourquoi vous l'avez écrit? Pour montrer que vous savez penser et pour toucher d'autres... Non mais la question se pose.
Je ne pense pas que j'écrirai à nouveau un livre de cette sorte. Mais ce n'est pas comme si il faut être un étudiant à la fac ou un enseignant pour lire ce livre. J'espère que ça pourra être lu, et ça a été lu par d'autres personnes, y compris par des activistes, des militants du mouvement anti-climat. Anti-changement climatique, mais ça ne débat pas de questions stratégiques, c'est purement au niveau théorique. Mais il y a un débat théorique au sein des mouvements écologiques et sur la durabilité, sur ce qu'est la nature. Est-ce que ça existe véritablement ou est-ce que ce n'est qu'une construction intellectuelle? Je pense qu'il faut avoir une conception réaliste de la nature qui nous dise que la nature, définie comme étant les structures et les processus qui sont indépendants de l'activité humaine, en ce sens qu'ils n'ont pas été créés par les êtres humains. Ça, c'est une réalité. C'est la réalité qui définit ce que les sociétés peuvent et ne peuvent pas faire si elles veulent éviter une catastrophe écologique totale.
C'est pour ça que vous préférez parler de capitalocène que d'anthropocène, parce que pour vous, l'anthropocène, c'est une manière de désigner tous les hommes comme responsables d'un changement géologique, alors que pour vous, le capitalocène replace les choses dans l'ordre, à savoir ce n'est pas tous les hommes qui sont responsables de ce changement climatique-là, c'est véritablement certains hommes, certains groupes d'hommes et certains modes de production. Et c'est là où on voit en fait que vous êtes d'abord un écolo marxiste.
Yeah, true.
C'est vrai.
Et comment vous êtes devenu un écolo marxiste? Et pourquoi vous avez choisi cette lecture-là plutôt qu'une autre?
Well, I mean, my own work on the climate.
Mon propre travail sur le climat. Sur cette question-là a débuté lorsque j'étais journaliste. C'est avant d'entrer à l'université. J'ai commencé à écrire sur le climat en 2005, mais j'étais vraiment un marxiste convaincu depuis beaucoup plus longtemps. Pour moi, il était naturel de me tourner vers le marxisme pour faire sens avec ce processus de la destruction de l'environnement, qui sont tellement évidents aujourd'hui.
Donc c'est pour ça que vous pensez que c'est une manière opérante de penser l'écologie, le marxisme, alors qu'il pourrait être aussi critiqué, en fait. C'est une manière qui pourrait être vue en termes de productivité, qui pourrait être vue aussi en termes purement économiques. Pourquoi vous pensez que dans le marxisme, qui en plus a été récupéré, qui semble avoir été dépassé, par exemple, en Europe, pourquoi vous pensez que vous pouvez y trouver des ressources intéressantes pour l'écologie et que ça puisse parler encore aujourd'hui, en 2024?
Il y a des discussions sur les écrits de Marx lui-même, sur l'écologie en fait, l'environnement. Et il y a des tensions, des ambiguïtés dans les œuvres de Marx. Et parfois, il est très enthousiasmé par la machinerie industrielle, alors que d'autres parties de son œuvre contiennent des analyses extrêmement avancées sur la façon dont l'environnement est détruit par la technologie. Quand j'ai commencé à lire ce genre de trucs, j'ai lu des œuvres de Foster qui avait lu absolument tout ce que Marx avait écrit et avait distillé un message écologique à partir des écrits de Marx. C'est différent de ce que l'on peut dire en disant on peut trouver tout chez Marx, tout ce dont on a besoin, et que Marx est tout à fait écologique à travers tous ses écrits, toute son œuvre. Et c'est ce que John Bellamy Foster dirait. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne faut pas avoir une attitude religieuse envers Marx. Je ne pense pas. Il y a des contradictions dans son œuvre. Il peut être amélioré, mais il y a beaucoup de choses là qui nous inspirent, parce qu'il nous montre très clairement comment l'accumulation du capital est de façon inhérente un processus insatiable qui tire toujours plus de ressources biophysiques et qui cause des disruptions graves au sol, à l'air et d'autres composantes de la nature dont on a besoin pour vivre. Et là, il y a une tradition extrêmement riche de travailler dans cette veine inspirée par Marx. Oui. C'est une scène vivante de production intellectuelle du Japon aux États-Unis et jusqu'ici.
Comment se présente le pipeline Le Havre-Paris ?
La canalisation principale, qui est constituée par un tube d'acier enterré de 25 cm de diamètre environ, s'étend sur une longueur de 250 km entre le port pétrolier du Havre et la région de Juvisy, après avoir contourné l'agglomération parisienne par le nord et par l'est. L'origine de cette canalisation est une station de pompage établie sur le port pétrolier du Havre et qui est reliée au réservoir de produits pétroliers raffinés de la compagnie industrielle maritime. Ainsi, on achemine par une canalisation unique des cargaisons successives de différents produits raffinés, à l'exclusion toutefois des fioul ou mazout, trop visqueux pour permettre un transport par pompage sur de très grandes distances.
C'est une archive de 1954. Nous sommes dans l'émission Paris vous parle, archive sur la mise en place du pipeline Le Havre-Paris.
Alors, évidemment, vous nous voyez venir, Andreas Malm. On va parler de comment saboter un pipeline. Là, c'était en 1954. Pourquoi avez-vous fait du pipeline? Je le rappelle, c'est quand même un tuyau qui sert à transporter des quantités de fluide comme du pétrole, du gaz, du charbon. Qu'est-ce que représente pour vous le pipeline? Pourquoi vous en avez fait le symbole de votre engagement?
L'oléoduc, c'est un emblème de l'infrastructure qui transporte des énergies fossiles vers les lieux où on les brûle. En anglais, il y a cette expression, il y a quelque chose dans le tuyau. Dit-on en anglais.
There is disaster in the pipeline.
Il y a un désastre, une catastrophe dans le tuyau.
The pipeline is filled.
Le tuyau est plein. C'est une métaphore. Hein. Et les tubes sont pleins de gaz, de pétrole, vers des lieux de combustion. Et c'est ce qui doit cesser. Et c'est très clair de la science du climat. Si on veut avoir des canaux pour limiter le réchauffement climatique, ce qui doit être fait, c'est que les énergies fossiles doivent rester dans la Terre. Il n'y a aucune autre option. Toute autre chose est une distraction, une diversion. Ce qui compte véritablement, c'est de laisser le pétrole et le charbon sous terre, ne pas les sortir, ne pas les vendre, ne pas les brûler. Les oléoducs sont exactement faits pour faire venir le pétrole et le gaz vers les lieux où ils sont consommés. Donc, les oléoducs doivent être fermés, point barre.
Enfin, là, vous dites pas seulement fermés, vous dites sabotés, puisque vous avez fait le constat, malgré le renforcement des vagues et des mouvements écolos, du fait que ça ne produisait aucun effet. Et donc, vous dites qu'il faut passer au stade supérieur. Le stade supérieur, c'est donc du sabotage, de la dégradation, mais évidemment, vous faites face à la question dans votre livre de la violence. Comment vous avez résolu ce dilemme de la violence? Je le résume comme ça, je l'ai lu ainsi dans votre livre, mais je le dis aux auditeurs et aux auditrices. En gros, le dilemme de la violence dans le mouvement écologiste, c'est celui-ci. Mieux vaut la violence qui sauve des vies ou mieux vaut la non-violence qui préserve des vies?
Oui, on peut avoir une discussion philosophique sur ce qu'est la violence.
Et est-ce que c'est la violence? C'est pas que philosophique, c'est les détracteurs qui vous opposent ce genre d'argument. C'est pas que philosophique, la violence, comme question.
Non, of course.
Non, mais bien sûr.
OK, let me take this from another way.
Allez, on va prendre ça d'un autre point de vue. Je pense que si vous fermez les structures des énergies fossiles, c'est du désarmement.
Hein? You shut down,
vous fermez des choses qui, en fait, tuent des gens. Donc, nous savons que des gens meurent en raison du changement climatique. Beaucoup de gens meurent de plus en plus à cause du changement climatique. Ça signifie que consommer des énergies fossiles tue des gens. C'est une conclusion inévitable des sciences du climat. Ça signifie que si on construit un oléoduc, l'oléoduc construit par Total en ce moment en Tanzanie et en Ouganda, avec du pétrole, par exemple, pour le pétrole, ce que vous faites, c'est que vous préparez la mort ou l'assassinat de gens. Parce que vous savez que cette activité va causer des meurtres de masse. Vous voulez pas tuer un groupe particulier. Vous êtes simplement conscient du fait que cette extraction d'énergie fossile va causer des morts par centaines ou par milliers, probablement plus particulièrement dans le sud global. Ça signifie que si vous évitez que cet oléoduc soit construit, vous allez éviter des massacres. Si vous vous assurez que ces énergies fossiles sont maintenues sous terre, ça signifie que vous allez éviter la violence de se produire. Personne dans le mouvement climatique suggère qu'on devrait attaquer des gens. Moi, certainement, je le dis très clairement dans mon livre, ça serait une idée terrible, par exemple, d'aller après un PDG d'une compagnie pétrolière, par exemple. Mais la destruction de propriété, et ça, c'est une vision déjà plus établie, de plus en plus dans le mouvement climatique, c'est légitime, cette destruction, parce que la propriété détruit des vies et cause énormément de souffrance et de mal et de mort dans le monde entier. Et ça doit cesser. Et le problème, c'est que nos gouvernements, nos États, ne les arrêtent pas. Tout à fait au contraire, en dépit du fait qu'ils sachent parfaitement, même de l'énergie, de l'Agence de l'énergie internationale, que il va y avoir l'installation d'un nouveau pipeline. Il ne devrait pas y avoir une nouvelle mine de charbon. Il ne devrait plus y avoir de terminaux gaziers. Non, tout ça, mais ces choses-là sont de plus en plus inaugurées. On investit encore de plus en plus. Et c'est vraiment, il y a une frénésie des États-Unis, en Norvège, en France, pour l'inauguration de nouveaux centres. Partout, en Chine, en Arabie Saoudite, toutes ces installations, toutes ces infrastructures se développent de plus en plus.
Bah alors j'ai beaucoup de questions à ce propos, Andreas Malm. Déjà, est-ce que vous avez l'impression que vos propos sont entendus par les militants écologistes, et même aussi l'opinion publique qui n'est pas forcément, qui est moins engagée? Est-ce que vos propos sur la violence, sur cette distinction-là, elle est audible et est-ce qu'elle est suivie?
You mean the difference between...
Entre la violence, la dégradation matérielle et la violence envers des hommes.
Tout le monde sait de façon intuitive que si vous faites brûler une voiture, c'est qualitativement différent de brûler un individu. Tout le monde comprend ça, d'accord ? Même si les deux choses sont des formes de violence, vous voyez qu'il y a une morale, une différence morale absolument entre mettre le feu à un objet inanimé et faire du mal à un être vivant. Ça ne veut pas dire que toute destruction de propriété sera soutenue par le public en général. Parce que si vous brûlez la voiture de quelqu'un, ben, cette personne sera très énervée. Et ses voisins, ses amis aussi. Et peut-être que les gens qui vont lire l'information sur le fait que des voitures sont brûlées ne seront pas contents. Mais si vous vous engagez dans ce domaine-là, il faut le faire de façon intelligente. Il faut cibler des choses, des objets, d'une manière qui peut être expliquée, communiquée aux gens.
Donc, par exemple, donnez-moi un exemple, Andreas Malm.
Mais par exemple, le sabotage de gazoduc.
Ça, d'accord, mais par exemple, sur les voitures. Vous ne brûlez pas des voitures. Oui.
Brûler des voitures au hasard, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Mais quand, par exemple, il y a eu cette campagne contre les SUV ici, il y avait une action il y a un an où des militants de Tire Extinguishers, et un grand site pour une société qui construisait des SUV, où ils ont brûlé une quarantaine de SUV à Londres, par exemple. Je pense que c'est une action légitime et bonne.
Et est-ce que ça produit des effets véritables et pérennes ? Parce qu'un pipeline, vous le sabotez, il va être reconstruit.
Le sabotage qui se produit présentement, qui s'est produit au cours des deux dernières années, où les gens ont commencé à expérimenter ce genre de tactique, est encore à une échelle très réduite. Donc c'est difficile de dire que ça fonctionne ou pas. Je pense que ça doit devenir... Le mouvement du climat doit devenir plus vaste en ordre de magnitude pour qu'il y ait des effets réels. Mais si vous regardez, par exemple, ce qui se passe là, où les actions de sabotage qui se sont produites ont été plus grandes que partout ailleurs dans le Nord, les rapports que moi je reçois suggèrent que ça a des effets, que certains des projets de mégabassines ont été annulés, et que ça a probablement une relation avec l'opposition extrêmement grave à ces mégabassines. Donc, qu'est-ce qui fonctionne ? Où est le progrès ?
Ah oui, c'est la vraie question.
Les seules choses concrètes en termes de progrès, en tant que cesser l'extraction d'énergie fossile, c'est en Amérique latine, en Colombie, et aussi dans une certaine mesure en Équateur. Et dans les deux cas, il y a eu pendant de nombreuses années des luttes locales contre les projets d'énergie fossile qui ont compris le sabotage et des manifestations de masse. Mais ce qui différencie ces pays, c'est que ces mouvements populaires ont aussi réussi à gagner des élections. En Colombie, il y a un précédent. Il y a un président, le premier président de gauche, qui ferme effectivement des industries d'extraction pétrolière. C'est sensationnel. Mais c'est exactement ce qu'il faut. En Équateur, il y a eu un référendum sur l'extraction du parc Yasumi, parc national, basé sur une longue lutte populaire contre l'extraction de produits miniers. Et ils ont gagné.
Alors, dans votre livre, Andreas Malm, comment saboter un pipeline, c'est pas que du sabotage concret, matériel. C'est aussi un sabotage un peu intellectuel auquel vous procédez, parce que vous voulez à tout prix saper l'illusion qu'on pourrait avoir d'un consensus qui serait raisonné, qui serait fluide autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que, pour vous, cette, du coup, saboter des pipelines, en venir à des actions directes et extrêmes, est-ce que c'est l'énergie du désespoir ? Est-ce que c'est la dernière solution avant d'agir, puisque les débats, puisque se déguiser en fleurs, ça suffit pas ?
Ah oui, il y a un élément de désespoir, c'est évident. Beaucoup d'entre nous dans le mouvement anti-réchauffement climatique sont dans le désespoir. Ça fait des années que nous sommes dans les rues, nous avertissons de ce qui arrive, et ça vient là. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Et malgré cela, c'est le train-train quotidien, business as usual en français. Et ça frustre beaucoup de gens. Et les jeunes ont été attirés vers les mouvements anti-réchauffement climatique en 2019. Un certain nombre d'entre eux sont désespérés au sens où ils sentent qu'on n'en a pas fait assez et que ce que nous essayons de faire n'a pas eu l'impact espéré, n'a pas eu l'effet espéré. Peu importe qu'il y ait eu des grèves d'école, que des centaines de milliers, des millions de gens aient manifesté dans les rues. Et ce qu'on a demandé aux politiciens d'écouter les scientifiques, comme c'était ce que disaient les slogans, ça n'a pas marché. Alors que faire? Il faut aller plus loin d'une certaine manière. C'est un sentiment général de ce qui reste du mouvement anti-réchauffement climatique dans le Nord global après les grandes vagues de 2018-2019.
Une dernière question, Andreas Malm. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que vous êtes éco-terroriste ?
Si le terrorisme a un sens, ça signifie le meurtre indiscriminé de civils pour des buts bizarre, en fait. C'est ce qui s'est passé avec le Bataclan ici. Personne ne propose de tuer qui que ce soit, certainement pas des civils, et personne ne le fait. Lorsque le mouvement du climat s'engage dans le sabotage, c'est comme je l'ai dit, contre des objets morts, des choses qui ne vivent pas, inanimées. Donc c'est différent du terrorisme. Personne n'est tué. Si quelqu'un est tué dans ce domaine, ce sont les gens qui sont tués par la combustion des énergies fossiles. C'est là où il y a des meurtres indiscriminés de civils. Ce n'est pas le but en soi le but de l'extraction des fossiles. Ce n'est pas de tuer des gens, c'est de faire de l'argent. Total, BP, ExxonMobil. Votre but n'est pas de tuer des gens particuliers, mais de faire autant d'argent que possible. Mais simplement, vous savez que l'argent, cette façon de faire de l'argent, tue des gens. Je ne dirais pas que Exxon et que Total sont des entités terroristes, parce que je ne pense pas que ça soit pertinent sur le plan analytique, mais ils sont beaucoup plus proches du terrorisme que soulèvement de la Terre ou d'autres mouvements de la sorte.
Merci Andreas Malm et merci à vous Michel Zlotowski. Alors de vous Andreas Malm, on peut lire Avis de tempête, Nature et culture dans un monde qui se réchauffe, c'est traduit par Nathan Legrand, pardon, et Comment saboter un pipeline, traduit par Étienne Daubenesque, et les deux sont disponibles aux éditions La Fabrique.
Et en référence à ces ouvrages, nous avons choisi deux chansons pour terminer cette émission, Andreas Malm, et c'est à vous de choisir, soit une chanson sur la tempête, soit une chanson sur le pipeline. Laquelle choisissez-vous ?
A song about a storm or a pipeline?
Yes.
Are there songs about pipelines?
Il y a des chansons sur les oléoducs.
Oui.
Storms, I can't imagine.
La tempête, je peux imaginer.
A pipeline,
so,
alors.
I'd like to hear the song about the pipeline.
Moi, j'aimerais bien entendre celle sur l'oléoduc.
Allons-y.
Voilà, c'était Moon Mullican, Pipeliners Blues. Un grand merci à vous, Andreas Malm, et vous, Michel Zotowski. Un grand merci aussi à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Issa Touendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Sébastien Royer. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à lundi.
Bon week-end, à lundi.